Donc j'ai intitulé ma conférence « Les sociétés rurales traditionnelles face à l'hiver ». Mon travail est complètement fou, est un essai d'histoire globale. Donc effectivement sur 4 siècles, sur toute la France, en étant attentif à la fois au monde rural et au monde des villes, et en étant aussi attentif à la diversité des catégories sociales, puisque bien sûr on est plus qu'à l'époque d'aujourd'hui inégaux face au froid en fonction de son statut social. Donc ce travail non sans mal aboutit à une thèse qui a été publiée, et aujourd'hui j'ai, et c'est normal et logique, choisi d'axer mon propos plus spécifiquement sur le monde rural, en sachant que ce que je vais dire du monde rural est valable aussi pour le monde des villes, mais je vais essayer de montrer les spécificités du monde rural. Alors, mon propos sera donc articulé en 5 points, ce qui changera du fameux 3 parties, 3 sous-parties. Tout d'abord, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu la généalogie du problème et du sujet. Donc là, Jean-Marc Morisseau, qui m'a lu attentivement et avec lequel je partage, je pense, un intérêt commun pour Lucien Febvre et Robert Mandrou, a déjà dévoilé une partie de cette première partie. Ensuite, je parlerai de la question des traces du froid et de l'hiver, traces au sens des sources, en s'interrogeant, puisqu'on est dans un séminaire doctoral, sur le statut de la source et surtout la démarche qui est celle de trouver des sources pour un sujet sur lequel on m'a dit bien souvent mais c'est bien joli comme question mais il n'y a pas de source. En fait, il y en a, mais il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination. Ce qui amènera à présenter la figure récurrente du grand hiver qui ressort des sources. Alors, il y a 1709, mais il y en a plein d'autres. Quiconque a fréquenté un peu assidûment les sources de l'Ancien Régime est tombé sur un grand hiver, un mort de froid, une histoire de loup, ou de personnes qu'on retrouve sur le bord des chemins. Ce qui pose, en quatrième partie, la question de la lutte contre le froid, et donc toutes les difficultés que la lutte contre le froid a posées à cette époque, et jusqu'à une époque très récente. À titre personnel, je suis aussi un fervent lecteur de Jacques Le Goff, et je partage son idée du long Moyen-Âge. Le long Moyen-Âge de Jacques Le Goff... Il faut bien, vous savez, connaissez l'université, on a des petites cases, des périodisations. Ce que je dis est, à mon avis, largement valable pour le Moyen-Âge et est valable bien au-delà de la période. J'y reviendrai dans ma dernière partie, puisque le monde dont je vais vous parler a été présent dans les campagnes, justement, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, en grande partie. Et donc, dans une dernière partie, je vais plus spécifiquement m'interroger sur le monde rural en essayant de voir si le monde rural n'est pas finalement un conservateur d'une autre sensibilité au froid et à la chaleur. Jean-Marc Morisseau a relevé l'expression d'ancien régime thermique, j'ai pas déposé la marque, mais c'est l'idée. Finalement, est-ce que le monde rural n'a pas constitué jusqu'à une époque très récente un conservatoire de cet ancien régime thermique, c'est-à-dire que le rapport personnel mais aussi social du froid et de la chaleur dans le monde rural, qui s'est séparé, j'y reviendrai, à partir du XVIIIe siècle avec la situation des villes où le confort est apparu, eh bien montre que les campagnes ont gardé des traits d'un rapport au froid et à la chaleur qui était très très ancien. Et donc, par un effet de concordance des temps, cher à Jean-Noël Jeannet, vous verrez que pour ou les plus anciens d'entre vous ou ceux qui ont parlé avec leurs grands-parents, ce que je vais vous dire pour le 16e, le 17e ou le 18e siècle peut faire écho à des choses beaucoup plus récentes. Je n'aurais peut-être pas fait traiter ce sujet si j'avais pas une grand-mère qui m'avait parlé de choses très simples, du fait par exemple que quand dans les années 40, quand elle allait laver le linge à la rivière l'hiver, elle revenait en faisant des malaises avec sa brouette pleine de linge sur le chemin qui la séparait du lavoir à sa maison. Et quand ma grand-mère me racontait ça, j'avais l'impression qu'elle me parlait d'un autre temps. Et c'était effectivement un autre temps. Je pense que la génération qui nous a précédés a connu des conditions d'existence qui nous apparaîtraient aujourd'hui insupportables, et pourtant qu'elles ont supportées. Quand je vois mes élèves, je suis prof en lycée, qui dès qu'il fait moins de 20 degrés arrivent en courant mitouflés avec des châles, des bonnets et des mitaines, et que je vois voir un petit peu la situation ancienne, on se rend compte que notre façon d'appréhender les températures est le produit d'une époque, d'une culture matérielle, mais aussi d'un discours, d'un ensemble de représentations. Et donc c'est de tout ça dont je voudrais vous parler maintenant. Alors, généalogie du problème, mon premier point. Mon diaporama est sur l'ordinateur, si vous voulez le diffuser, il n'y a pas de problème. Il est en PDF et le livre est dans toutes les bibliothèques normalement. Alors, je vais aller vite. L'interrogation première vient de Lucien Febvre, donc on a ici les combats pour l'histoire. Lucien Febvre, grand historien, cofondateur avec Marc Bloch des Annales, qui, avec Marc Bloch, a un intérêt pour une histoire incarnée, une histoire en chair et en os, dit-il, une histoire attentive aux hommes, dans leur dimension biologique aussi. Je ne reprendrai pas ici la formule célèbre de Marc Bloch, selon laquelle l'historien est comme l'ogre de la légende, là où il sent la chair fraîche, là est son gibier. Il y a chez Febvre, mais ça vient de plus loin, ça vient de Michelet aussi, dans cette volonté de résurrection intégrale du passé, des interrogations très précises dans une série de conférences dès 1924 sur l'homme de la Renaissance, qui n'ont rien perdu de leur puissance de suggestion, repris dans un célèbre article de 1938, Psychologie et Histoire, dans l'Encyclopédie française, qui a servi, cet article est fondamental dans l'histoire des sciences humaines et sociales parce qu'il a servi de matrice à toute une réflexion, et en particulier à la réflexion d'Alain Corbin sur l'évolution des seuils de sensibilité. Que dit Lucien Febvre dans ce court passage qui, moi, m'a toujours marqué ? L'hiver existe-t-il pour un Européen, un Nord-Américain à leur aise ? Il écrit en 1938. Quand ils le veulent, oui bien, quand ils vont le chercher là où il est le plus marqué afin d'y prendre leur plaisir d'hiver. Mais cet hiver est perpétuellement accompagné dans de confortables hôtels d'un été qui ne demande qu'à le relayer. On skie toute la journée sur la neige, le soir on est chauffé à 20 degrés. On reviendra sur le 20 degrés, chiffre magique, pourquoi pas 19, pourquoi pas 21. Et à mon avis, il y a une magie du chiffre rond. Et chauffé partout, qui entre dans une maison bourgeoise aujourd'hui dans une grande ville au fort de l'hiver, sent tout de suite au village la laine chaude des radiateurs, aussi se dévêt-il. Qui pénétrait dans sa maison au XVIe siècle en janvier sentait le froid tomber sur ses épaules, le froid immobile, silencieux et noir des logis sans feu. On grelottait d'avance au logis comme on venait de grelotter à l'église, comme on grelottait dans le palais du roi en dépit des hautes cheminées consumant des arbres entiers. Et le premier geste de l'homme qui rentrait n'était pas d'ôter son par-dessus, c'était de passer une houppelande plus chaude que sa houppelande de sortie et de coiffer un bonnet fourré, plus épais que le bonnet de rue. Quand on a lu ça, on dit que finalement, on a tout compris et que Lucien Febvre avait tout compris. Et heureusement pour moi, ses intuitions, il ne les a pas développées. Ce qui m'a permis de les illustrer. Mais je n'ai pas le sentiment d'avoir découvert quelque chose. Je ne fais que reprendre une intuition de Lucien Febvre et de l'approfondir et de l'illustrer et de la démontrer. Lucien Febvre qui est décidément à l'honneur aujourd'hui, puisqu'on a lu deux de ses textes. J'en suis très content à titre personnel. En plus, il est comtois, ce qui ne gâche rien. Après Lucien Febvre, il y a un deuxième historien, Jean-Marc Morisseau l'a aussi cité, c'est Robert Mandrou. L'histoire de Robert Mandrou est très intéressante. Si vous voulez connaître l'histoire de sa carrière universitaire, il faut lire l'introduction à la France moderne, mais surtout le paratexte qu'il y a autour de cette édition de 1998, où on apprend tout ce que la pensée de Robert Mandrou doit à Lucien Febvre, en fait, pour une sombre histoire de concurrence. Le livre qui est connu sous le titre « Introduction à la France moderne, essai de psychologie historique de Robert Mandrou » aurait dû être en fait signé Robert Mandrou et Lucien Febvre, puisque de même que pour l'apparition du livre, on a Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, le principe à l'époque était que Febvre a tracé le plan, donné en gros les directions de recherche, et il avait chargé un jeune historien de remplir les cases. Et Lucien Febvre meurt, reprenant donc ce vieux sujet qui traverse son œuvre de part en part, cette question du sensibilité au froid et à la chaleur. Et puis Lucien Febvre meurt en 56. Brodel, tout puissant dans les sciences humaines, s'oppose à Mandrou. Il dit, il est hors de question que le nom de Febvre apparaisse sur l'ouvrage. Je suis l'héritier de Lucien Febvre. Et donc, injustement, le nom de Febvre n'apparaît pas ici. Mais Mandrou est l'héritier spirituel et intellectuel de Lucien Febvre. Et les lignes qu'il y a dans l'introduction à la France moderne doivent autant à Mandrou qu'à Lucien Febvre, dont le nom pourtant n'apparaît pas sur la couverture de l'ouvrage. On a au début de cet ouvrage, qui, moi j'ai découvert en maîtrise, on ne disait pas master à l'époque. Comme toujours, on vous donne des conseils de lecture. Je ne sais pas pourquoi ce livre-là tout de suite m'a parlé. Et j'avoue que je ne m'en suis jamais remis. C'est-à-dire que je le lis, je le relis, je m'en imprègne complètement, à tel point qu'au bout d'un moment, on ne sait plus si on l'a lu ou ça fait partie de ce qu'on pense soi-même. Le livre commence, et lisez-le tous, par un chapitre, une première partie qui s'appelle « Mesure des hommes » et qui rappelle une chose évidente, mais pourtant parfois oubliée, c'est qu'avant d'être un homme religieux ou quelqu'un qui travaille ou quelqu'un qui a des idées politiques, etc., l'homme est avant tout un être de chair et de sang. un homme physique, un homme psychique, et que donc le corps de l'homme, son rapport aux éléments, l'alimentation, sa façon de penser, ce qu'on appelait les mentalités, avec tous les débats qu'il y a autour de la notion, ou les représentations, tout ça a une histoire, et que, pour éviter le péché entre les péchés et l'anachronisme, comme le dit toujours Lucien Febvre, il faut toujours bien savoir ce qu'on appelle un homme. Un homme du XXIe siècle n'est pas un homme du XVIe, du XVIIe ou XVIIIe siècle, à la fois sur le plan physique, des études très célèbres d'Emmanuel Leroy Ladurie sur la taille des conscrits, hein, ils sont plus petits, ils mangent pas la même chose, leur fonctionnement corporel n'est pas le même, on n'a pas d'aménorrhée de famine au XXIe siècle, en tout cas pas en France. Et donc, il faut toujours recontextualiser les témoignages que l'on a en fonction de ces données tout à fait biologiques qu'ont beaucoup travaillé les historiens de la démographie, entre autres. Donc, quelle est la piste de départ et quelle est la volonté qui s'exprime dans cette enquête ? Elle est en fait une fidélité aussi à une conception de l'histoire qui est celle des annales, qui est celle de l'histoire problème. C'est-à-dire qu'il y a, en gros, je pense, plusieurs types de thèses, mais qui peuvent se ranger en deux catégories. Soit on a un superbe gisement d'archives, et on a une série numérotée qui va de, je sais pas moi, H, etc., ou G, 1 jusqu'à 12, 120 ou 140, et on dépouille. C'est ce qu'a fait Chaunu pour Séville et l'Atlantique. On prend tous les registres dans l'ordre, et puis, après, on va compléter avec d'autres choses. Mais on a un gisement évident. Et puis, c'est, je dirais, la source qu'on découvre qui donne l'idée du sujet. Ou alors, on a une démarche inverse, c'est-à-dire qu'on parle d'un problème, et en fonction du problème, on va chercher ses sources. Avec tout un tas de difficultés, c'est que parfois, on a le questionnement, on a le problème, on n'a pas forcément la solution et la source qui va avec. Et parmi ces sources, il faut donc avoir une démarche un peu régressive, savoir finalement, quand on regarde ces paysans du mois de février, des très riches heures du duc de Berry, finalement on a tout compris, ils sont comme nous, regardez-les, ils sont là, ils sont devant la cheminée, ils se chauffent, ils sont chauds, c'est l'hiver, dehors il fait froid, il y en a un ici qui souffle sur ses doigts, ben, il a froid, là on a chaud, tout va bien, ils se chauffent avec une cheminée, ils n'ont pas de culotte, ça c'est faut le regarder, ça c'est rigolo, j'ai quand même réussi à faire un livre très sérieux où on voit des gens sans culotte en couverture, finalement on a, et c'est le risque aussi avec l'image, un sentiment de proximité, bah oui, ils ont chaud, ils ont froid, ils sont comme nous. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que si on veut étudier l'histoire du rapport intime et personnel, et corporel au froid et à la chaleur, on est en fait à la confluence de plusieurs types d'histoire, plusieurs domaines de l'histoire. Ce sujet a à voir avec l'histoire du climat. Bien sûr, on ne peut pas étudier ce sujet sans connaître les travaux d'Emmanuel Leroy Ladurie. Sauf que les historiens du climat étudient le climat en tant que tel. Ce qui les intéresse, c'est les fluctuations, les variations de température, le réchauffement, les cycles, le minimum de Maunder, le petit âge glaciaire, etc. Or là, c'est pas une histoire du climat, c'est une histoire de l'homme face au climat. Donc c'est une histoire qui est anthropocentrée. Deuxième chose, notre rapport au climat et aux températures dépend aussi de la culture matérielle, c'est-à-dire de la façon dont on est vêtu, de la façon dont on est logé, des moyens dont on dispose pour se chauffer. Et donc, il faut recontextualiser les témoignages. Troisième chose, on est bien aussi là dans le domaine, alors pour l'histoire de la culture matérielle, il y a une foule d'ouvrages, je pense à ceux qui travaillent sur les inventaires après décès, c'est la source classique. Il y a les travaux d'Annick Pardaillé-Galabrin, il y a les travaux de Daniel Roche sur le peuple de Paris, il y a aussi des travaux dans le monde rural, je pense à Rêvé Benzon ou Françoise Varro-Desjardins. Il est plus facile d'avoir des séries continues dans le monde urbain que dans le monde rural. Ou même dans des ouvrages comme les Feuilles de l'Île de France, il y a des études sérielles qui montrent les évolutions de la culture matérielle, l'apparition de l'horloge, de la montre, du poêle, etc. Mais on a bien aussi affaire à une histoire des sensibilités. Et là, on est plutôt sur le terrain d'Alain Corbin, c'est-à-dire une histoire des seuils de tolérance, de l'évolution des seuils de tolérance au fil du temps. Tolérance, je pense à Alain Corbin au son. Aujourd'hui, on a des gens qui, quand ils achètent une maison dans un village, vont se plaindre que l'église sonne, alors que pendant des siècles, on se plaignait quand les cloches ne sonnaient pas. Tolérance aux odeurs, relisez « Le mien se met la jonquille ». Notre rapport à notre environnement est aussi objet d'histoire. La façon de regarder le paysage évolue. les montagnes affreuses et les... autrefois, aujourd'hui, on aime le pittoresque. Autrefois, on aimait les plaines parce que les plaines étaient nourricières. Il y a tout un tas de choses comme ça qu'il faut, qui sont objets d'histoire. Et donc, histoire des sensibilités, dans le sens aussi où notre rapport au froid et à la chaleur est le produit d'une éducation aussi, d'un discours, d'une construction complexe, culturelle et sociale à la fois. Et donc, logiquement, on est aussi sur le terrain de l'histoire du corps, un sujet en pleine expansion. Vous voyez quand même qu'entre l'histoire des sensibilités et l'histoire du corps, on est quand même dans le domaine d'Alain Corbin, dans les deux cas. Histoire du corps, pourquoi ? Parce que le froid et le chaud impactent les corps, on y reviendra. Et les écrits des médecins, j'y reviendrai longuement, sont d'un très grand intérêt quand on étudie cette question. Donc, ceci étant posé, quel est l'objet du livre ? Eh bien, il est de faire une histoire sociale et culturelle de l'hiver. Le social et le culturel sont liés complètement l'un et l'autre. Et donc, d'avoir une approche qui soit clairement centrée sur l'homme, au ras du sol, pour reprendre l'expression de Jacques Revel, à propos de Carlo Ginzburg, une sorte de micro-histoire sérielle, si on peut oser le paradoxe, c'est-à-dire, exactement comme dans les chroniques du monde rural, dont j'attends impatiemment la parution, de se placer au niveau de l'homme, au niveau de son quotidien le plus commun, et d'essayer de voir au fil du temps comment ces notations permettent de retracer une histoire, de voir à la fois les permanences, mais aussi les mutations. Alors, à partir de quelle source ? Le vrai problème est celui-là. On rejoint ici les réflexions de Carlo Ginzburg sur les traces et le paradigme indiciaire dans son célèbre article de 1979, où Carlo Ginzburg explique et analyse longuement que l'opération historique, le travail de l'historien, s'apparente à la chasse, et que, en gros, le cerveau de l'être humain, depuis la nuit des temps, est un cerveau de chasseur qui a appris à décrypter des traces. Et quand je lis dans l'article de Ginzburg que l'opération historique s'apparente à, je cite, « sentir, enregistrer, interpréter et classifier des traces infinitésimales », c'est-à-dire des petites choses qu'on va lire comme ça à droite et à gauche, puis accomplir des opérations mentales complexes, je me place tout à fait dans, ma démarche s'inscrit tout à fait dans cette lignée. Alors, à partir de quelle trace ? Le froid et l'hiver laissent des traces dans les archives. J'ai, pour mon travail, en gros, utilisé trois types de sources. Le corpus de l'enquête se base tout d'abord sur ce qu'on appelle les écrits du fort privé, selon une expression qui fait Flores, qu'on appelle aussi les égaux documents. C'est ce qu'on trouve édité sous le nom de chroniques, livres de raison, journaux, journaux mémoires, etc., c'est-à-dire des écrits de gens tout à fait simples, sauf les chroniques qui parfois sont beaucoup plus abondantes, qui écrivent pour eux ou pour leur famille et qui ressentent le besoin de prendre quelques feuillets, un carnet, un cahier, et de noter au jour le jour ce qui leur semble important. C'est un bric-à-brac absolument réjouissant. Ça va d'un accident de cheval, un incendie, un orage violent, une inondation, un meurtre dans le village, une histoire de cocufiage, la naissance des enfants. J'en passe et des meilleurs, pas toujours des meilleurs d'ailleurs. Et au milieu de tout ce fatras de notations, au jour le jour et au ras du sol, qui, soyons clairs, sont d'une richesse inestimable, parce que ce que notent ces scripteurs, c'est des choses qui font partie du quotidien. Aujourd'hui, l'historien du 25e siècle ne connaîtra rien de vous, surtout avec des téléphones portables qui ne laissent pas de traces numériques. Si vous prenez la peine dans un petit carnet de dire « Aujourd'hui, je suis allé au séminaire de Jean-Marc Morisseau, j'ai pris le bus ce matin », etc., on pourra utiliser ça dans le 25e siècle pour voir quel était votre quotidien au jour le jour. Et ces écrits-là nous permettent d'atteindre, je dirais, la vie la plus banale qui soit et d'avoir accès à des choses que ne disent aucune autre source. Ou alors de façon beaucoup plus incidente. Par exemple, les morts sur les chemins. Le fait que, quand il y a un gros hiver, on trouve des gens morts partout. Et ça, vous le trouvez dans les livres de raison absolument partout. On a trouvé une personne morte sur un chemin. On a trouvé le conducteur de la diligence fantôme qui arrive au relais de poste. Et quand la diligence arrive, parce que les chevaux connaissent la route, le cocher est raide, gelé, tenant encore les rênes. Et ça, vous l'avez, la laitière de Villejuif qui va vendre son lait à Paris, qu'on retrouve sur le bord du chemin, etc., etc. Deuxième type de source, les sources plus ou moins classiques de la culture matérielle, donc je ne m'étendrai pas sur l'apport des inventaires après décès, et en particulier les limites de l'inventaire après décès, qui sont bien connues, ça coûte cher de faire un inventaire après décès, si la succession est faible, il n'y a pas forcément d'inventaire, le notaire n'est pas forcément très précis, il ne prise que ce qui a de la valeur, après il y a la question de l'usage des objets, par exemple, quand on a un pot en terre, à quoi sert-il ? Il peut servir à mettre des braises pour servir de réchauffoir, et ça, on ne le voit pas. Il n'empêche qu'il y a tout un tas de travaux extrêmement intéressants qui permettent de voir des évolutions au fil du temps, de noter en particulier l'apparition des éléments de confort thermique, le poêle en particulier, et d'étudier sa diffusion à partir du XVIIIe siècle. Dans l'histoire de la culture matérielle, c'est un des partis pris de l'ouvrage et de la thèse, il y a une vraie volonté d'utiliser les sources iconographiques. Mais c'est-à-dire de les utiliser comme des sources. Alors bien sûr, comme toute source à critiquer, on sait que le nain ne représente pas de vrais paysans. Pour certains, ils sont beaucoup trop habillés. Il y a un verre en verre que n'avaient pas les paysans. C'était plutôt des gobelets d'étain. Mais il n'empêche qu'on a dans la peinture, en particulier chez les peintres flamands, tout un tas de détails. Le rôle de la cheminée, dans tous les tableaux des Lenains, il y a des cheminées, ça montre la centralité de la cheminée. J'ai eu l'occasion, peut-être certains d'entre vous, de les admirer en vrai au Louvre-Lens l'année dernière lors d'une superbe rétrospective où ils étaient tous là. En fait, tout ce qu'on a vu dans les livres étaient réunis, venus des États-Unis, du Louvre et de partout ailleurs. En utilisant les gravures, par exemple cette paysans et enfants se chauffant devant le foyer, on peut en faire une lecture historique, c'est très intéressant. On y voit les attitudes corporelles, le fait de tendre ses mains. Pourquoi est-ce qu'on tend ses mains ? Bah parce que sinon on a froid, hein. Si on les met pas, on se réchauffe pas. On se rend bien compte que l'adulte qui est assis n'a pas l'air d'être très réchauffé par le feu qui brûle pourtant à un mètre devant lui. Donc tout ça, c'est aussi des sources. Et idem pour les scènes d'auberge, hein, on remarque par exemple dans l'iconographie le rôle quasiment magnétique, ça c'est une réflexion de géographe, hein, la polarisation de l'espace intérieur par la cheminée. En fait, la cheminée agit comme un aimant qui attire les corps qui sont groupés en cercle autour d'elle à la juste mesure, suffisamment près pour avoir chaud, pas trop loin suffisamment près pour avoir chaud sans être brûlé. Il y a vraiment on pourrait tracer une sorte de cercle au compas autour du foyer. Et puis dans les sources relatives à la culture matérielle, il y a aussi tous les traités, ça peut être des traités d'architecture, et surtout à partir du début du XVIIe siècle, les traités techniques d'une science nouvelle qui s'appelle la caminologie, science des cheminées, c'est un néologisme du XVIIIe siècle. Et dans ces traités de caminologie, le premier, c'est celui qui est ici, Gaugé, hein, Monsieur G, ici, le premier est publié sans nom d'auteur, mais les rééditions se feront avec nom d'auteur, Nicolas Gaugé, à qui vous pouvez être tous redevables, puisqu'en gros, c'est le fondateur de, pour dire, la thermique en France, le premier à réfléchir de façon scientifique, on est en 1713, faut pas non plus exagérer, à la façon dont la chaleur se diffuse. Il y a une réflexion sur la diffusion de la chaleur. C'est la façon dont la chaleur se propage et surtout une réflexion sur la manière dont on peut améliorer ce qu'on appellerait aujourd'hui le rendement calorifique des cheminées avec un système de fond parabolique, toute une réflexion. On est en plein dans les débuts de la physique. Gaugé a lu Newton. C'est très intéressant aussi sur l'univers mental et la culture scientifique de l'époque. Donc dans ces traités de caminologie, dès qu'on vous parle de cheminée, et des gens très célèbres ont parlé de cheminée, comme Franklin, par exemple, le grand savant américain, eh bien, on a tout un tas de notations à côté des choses très scientifiques sur le vécu, le quotidien. Ça chauffe, ça chauffe pas, on se rôtit le visage, on a froid au dos, on se gèle les talons, ça revient constamment. Et donc, on peut avoir une idée de la façon dont fonctionne, ou plutôt ne fonctionne pas la cheminée, la façon dont elle chauffe. On verra qu'elle chauffe très mal. Enfin, troisième type de source, les écrits des ethnographes involontaires des sociétés rurales. Alors, qu'est-ce que j'appelle les ethnographes involontaires des sociétés rurales ? C'est tous ceux qui nous ont laissé des descriptions précises, sous la forme de, presque de carnets ethnographiques, des vies et des mœurs des paysans. Et parmi ceux-ci, on peut parler des récits de voyage, il y en a quelques-uns qui sont très célèbres, en particulier le Grand Dossi dans ses voyages en Auvergne, qui est vraiment très intéressant. Il y a plein de choses dans le Grand Dossi. En musicologie, par exemple, sur la vielle et les instruments traditionnels, les cabrettes, etc. Il y aurait une chose à faire en musicologie sur l'hiver, hein, l'air du froid de Purcell, etc. Les saisons, j'y pense, c'était une dédicace à notre ami musicologue. Récits de voyage, bien sûr. Je pense, par exemple, je ne sais pas comment je suis tombé dessus, bien sûr, comme je le cherche, je ne le trouve plus, ce fondateur Faujas de Saint-Fond, qui est un des premiers géologues, qui arpente le Velay et le Vivarais, qui comprend en gros que les plateaux du Velay et du Vivarais sont des coulées basaltiques, et qui, en arpentant le Velay et le Vivarais, tombe sur des paysans, qui mangent des marrons d'ailleurs, j'ai vu une photo de Jean-Robert Pitt tout à l'heure, et qui raconte comment vivent ces paysans, qui a des correspondants qui lui racontent comment se passe l'hiver, avec les muletiers qui se perdent dans la neige, et qu'on retrouve errant dans la neige, ou mort de froid le lendemain. Donc, on a comme ça des écrits ethnographiques, et parmi ces écrits ethnographiques, il faut faire une place particulière à une source qui intéresse directement les ruralistes, et d'un fonds d'archives qui est malheureusement peu fréquenté par les historiens, qui est celui du fonds de la Société Royale de Médecine. Alors, je vous ai mis une photo pour vous donner envie d'y aller, parce que c'est un lieu qui est très agréable. On est rue Bonaparte à Paris, entre Saint-Germain-des-Prés et la Seine. Il y a des endroits plus désagréables pour travailler. La Société Royale de Médecine, en bref, est fondée en 1778. Elle existe sous une autre forme dès 1776. Elle est fondée par Vic d'Azyr. Et elle établit un réseau de correspondants dans toute la France qui a pour but de faire remonter de l'information sur les épidémies, pas les épizooties, mais les épidémies. Et elle va entretenir comme ça, entre 1776 et sa dissolution, comme toutes les sociétés savantes en 1793, je crois, une correspondance active avec des dizaines et des dizaines de médecins, parfois dans des lieux lointains. Pour les gens qui travaillent sur les colonies, il y a des médecins dans les colonies aussi. Et ces médecins répondent aux questionnaires qu'on leur envoie. Alors, on y trouve des choses sur les eaux thermales, on y trouve des choses sur des épidémies, de variole, de rougeole, de fièvre, avec toute la typologie des fièvres. Et on y trouve aussi des choses sur l'hiver, puisque à cette époque-là, se développe une pensée médicale qu'on appelle le néo-hippocratisme, où on a un changement de paradigme médical. Avant cette époque, on considère que la maladie est le produit d'un dérèglement des humeurs, le chaud, le froid, le sec et l'humide. Et à partir de du début du XVIIIe siècle, sous l'influence d'un médecin hollandais qui s'appelle Sydenham, on a un renouveau des idées d'Hippocrate. Hippocrate étant l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Air au lieu ». Et pour Hippocrate, en fait, la maladie provient de l'environnement du malade. Et donc si on veut s'intéresser à la maladie, il faut s'intéresser à l'environnement, à la qualité de l'air. Quand je dis qualité de l'air, il ne faut pas y voir une chose sur la pollution, on n'est pas au XXIe siècle, au lieu dans lequel il vit et à l'eau qu'il boit, autrement dit à son environnement. Et dans cet environnement, tout est important. Les gestes les plus quotidiens, l'endroit où on dort, la façon dont on se nourrit, la façon dont on est abrité des influences du froid ou du chaud. Et donc ce regard médical va se tourner vers les conditions de vie des patients. Il va donner naissance à un genre qui va être très célèbre pendant encore tout le XIXe siècle, jusqu'en gros la révolution pasteurienne, qui est la topographie médicale. La topographie médicale, c'est en fait une description par un médecin d'un lieu dans lequel il va faire, alors c'est un plan tout à fait stéréotypé, le relief, le climat, les eaux, les mœurs des paysans, les tempéraments. C'est intéressant sur les genres régionaux. Tel habitant de telle province est flegmatique, tel autre au contraire est plutôt dynamique, etc. Mais dans ces topographies médicales, on a tout un tas de notations extrêmement précises sur l'alimentation, le vêtement, les effets de l'hiver. Et si vous travaillez sur un lieu, pensez à aller jeter un œil à l'inventaire des archives de la Société Royale de Médecine qui sont maintenant numérisées. Moi, c'est l'époque héroïque, j'ai consulté des fiches papier, c'est un inventaire manuscrit, ça a été remis en forme. Et ayez la curiosité d'aller fréquenter ce fonds parce que vous pouvez y trouver des choses très intéressantes sur un village peut-être. Par exemple, dans l'Orne, il y en a quelques-unes. Et puis il y a aussi des topographies médicales imprimées. Et clairement, mon étude n'aurait pas pu avoir lieu sans ces médecins qui ont pu se répondre à des enquêtes sur les grands hivers de la fin du XVIIIe siècle. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce corpus? Tout d'abord, on est face à une documentation qui est éparse, des petites notations un petit peu partout, fragmentaires. On a des bribes comme ça qu'on saisit au vol, et lacunaires, parce qu'il est incapable de faire une étude sérielle, ou alors il aurait fallu que j'y consacre ma vie. Il n'empêche que il faut être inventif avec ses sources et, jeu de mots facile, d'accord, mais c'est pas interdit de faire des jeux de mots faciles, il faut apprendre à faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir les sens en éveil et quand on lit un contrat notarié, quand on lit n'importe quelle source d'archives, en ayant en tête cette question du froid et du chaud, eh bien on peut la faire surgir de pas mal de types de sources. La documentation du livre ne se limite pas à ça. Il y a la littérature, le poème, la musique même, peuvent être sources. Il y a toujours quelque chose à glaner. Le problème de cette documentation, c'est qu'elle privilégie l'exceptionnel plus que le quotidien, bien sûr. On vous parle du froid quand il y a des morts de froid, on vous parle de l'hiver quand il est exceptionnel. Et donc, on a un effet déformant. Et toute la difficulté consiste à ne pas virer à la fois dans le spectaculaire. Oh là là, l'hiver 1709, comme il est horrible. En fait, je suis désolé, mais l'hiver 1709 est loin d'être unique. Il y a des dizaines d'hivers 1709. Ils n'ont pas été autant médiatisés. Mais l'hiver qui tue, l'hiver qui fait geler les rivières, l'hiver dans lequel on doit débiter le vin à la hache, il revient tous les 10, 15, 20 ans. Et on souffre du froid, pas uniquement une fois ou deux par siècle. Alors, effectivement, ce qui ressort de ces sources, c'est surtout la figure récurrente du grand hiver. Pourquoi récurrente? Parce que dès la naissance de la météorologie, c'est-à-dire en gros la fin du XVIIIe siècle, avec les travaux de l'abbé Cotte, qui est à la fois à la Société Royale de Médecine, à l'Académie des Sciences, qui a un réseau de correspondants dans toute l'Europe, et qui est l'auteur d'un traité de météorologie, un des premiers traités de météorologie. On a un intérêt pour la météorologie, et parmi ces férus de météorologie, on a un abbé, qui s'appelle l'abbé Mann, qui est, on dirait aujourd'hui belge, à l'époque ça s'appelait pas la Belgique, qui publie, dès 1792, un mémoire sur les grandes gelées et leurs effets. Et en fait, cette publication inaugure une série de publications sur l'hiver, où on a comme ça une étude sérielle des hivers, d'après les sources narratives, qui commence avec Mann, qui se poursuit avec Arago, le grand savant du début du XIXe siècle, qui se poursuit avec Sanson dans les écrits de la Société d'agriculture. Il y a un catalogue des grands hivers et des grands étés, qui traîne aujourd'hui d'ailleurs encore sur Internet, sur des sites perso, etc., ou sur le site de Météo France, ou sur le site de chaîne Météo. Vous avez comme ça des catalogues de grands hivers. Il y aurait beaucoup à dire, le travail serait à reprendre entièrement, parce que souvent c'est pas sourcé, il y a des lectures un peu biaisées des sources, mais comme ça, vous pouvez faire une série de grands hivers. Et qu'est-ce que montre cette série? Eh ben, elle montre que, pour connaître ces grands hivers, on est bien sûr dépendant de la documentation, que plus on avance dans le temps, plus on a une connaissance fine de ces hivers, puisque les sources se multiplient, et en particulier les relevés thermométriques à partir de la fin du XVIIe siècle, et que il y a un effet déformant des sources. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les grands hivers apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, parce qu'on a plein de sources, mais en fait, avant, il y en avait autant, simplement les sources sont beaucoup plus lacunaires et beaucoup, beaucoup plus discrètes. Très vite, la référence absolue devient l'hiver 1709. On a l'impression que l'histoire du grand hiver commence en 1709. Il y a une histoire de l'hiver 1709 à écrire, esquisser quelques traits. Pourquoi 1709? Pour tout un tas de raisons, parce que 1709, c'est l'hiver de Louis XIV. Et que, forcément, vu la place qu'occupe Louis XIV dans la mémoire collective, il a entaché la fin de son règne. Et donc, on parle de l'hiver 1709. Déjà Voltaire en parle dans son siècle de Louis XIV. Pourquoi 1709? Parce qu'il y a Saint-Simon, qui n'a pas lu les pages de Saint-Simon, les glaçons qui tombent dans les verres, l'élixir de la reine de Hongrie qui éclate dans la chambre de la reine, etc., etc. Il y a la princesse Palatine, une grande bavarde, qui raconte à peu près les gens qui meurent comme des mouches. Et puis les curés de paroisse, et là c'est l'étude de Marcel Lachiver, qui dépouille les registres paroissiaux, et là n'importe quel généalogiste est tombé un jour sur le grand hiver 1709. Et en tombant sur le grand hiver 1709, on dit « Ah bah oui, c'est l'hiver par excellence, avec un H majuscule ». Sauf que quand on y regarde un petit peu plus près, il y a un effet très déformant de l'hiver 1709, c'est qu'en fait, il y a d'autres hivers beaucoup moins connus, mais tout aussi terribles. Le catalogue que je vous propose n'est absolument pas exhaustif, mais c'est ceux pour lesquels on est le mieux documenté. Si on regarde l'hiver 1564-65, alors pourquoi, en principe, quand on parle de l'hiver, par exemple, 1776, c'est janvier-février 1776, il se trouve que pour 1565, je fais une petite exception parce que la vague de froid a lieu surtout pendant le mois de décembre. On a un témoignage, mais qui est exceptionnel, qui est celui de Claude Hatton, le curé de Provins, et qui vous fait une série de paragraphes dans son énorme chronique, qui est plutôt une chronique sur les guerres de religion, qui vous décrit les effets de l'hiver 1564-65. Et c'est absolument effrayant. La neige qui tombe, les gens morts de froid, le glaçon qui se forme au bout de la louche, posé dans le chaudron au-dessus du feu. Et quand on lit ça, on dit, ben oui, c'est 1709, oui, mais c'est bien avant. Puis après, on va 1708, et là, on tombe sur Pierre de l'Étoile, le chroniqueur, et on se rend compte que c'est exactement la même chose. Le vin qu'on débite à la hache, les gens qui traversent les rivières sur les charrettes, etc., etc. Les gens qu'on trouve morts de froid dans leur lit. La moustache d'Henri IV qui gèle, ça ne s'invente pas, ça, quand même. Henri IV se lève un matin et dit « Mordius, ma moustache est gelée ». Pourquoi ? Parce que son haleine s'était figée sur sa moustache, preuve qu'il gelait dans la chambre du roi. Vous voyez que même si on est roi de France au début du XVIIe siècle, on n'est pas mieux chauffé que les autres. Et puis, si on continue, on arrive à la fin du XVIIIe siècle, et là, on a trois hivers sur lesquels on est particulièrement bien renseigné. C'est 1776, 1784, 1789, parce qu'on en a des témoignages, il y a des enquêtes dans les archives de la Société Royale de Médecine, et il y a surtout des mémoires de l'Académie des Sciences, dont Messier, qui en fait une longue étude. Et ces hivers permettent d'aller au plus près de la réalité quotidienne, et de découvrir tout un tas de détails très concrets, par exemple le fait que les toilettes sont inutilisables, parce que la matière fécale gonfle et passe au-dessus de la linette. Que les pendules s'arrêtent quand il fait froid, parce que la dilatation du métal fait que sur des engrenages, ça bloque tout. Que les effets de l'hiver sont absolument terribles. Le chômage, on parlerait de chômage technique aujourd'hui, les journaliers agricoles, tout d'un coup, paf, qui vivent au jour le jour, non plus de revenus. Donc l'hiver provoque de la misère, l'hiver provoque des crises de subsistance, les moulins s'arrêtent, on conserve très mal la farine, donc on a tendance à la moudre de façon régulière, et là tout d'un coup, le moulin à eau est bloqué. Et que fait le meunier ? Ben, il passe son temps à casser la glace pour éviter que sa roue soit prise, et il y laisse parfois des doigts et des phalanges, un grand classique aussi dans les sources, parce qu'à force d'avoir les mains dans l'eau glacée, il n'y prend pas garde, et il se rend compte qu'il a les doigts tout bleus, qui commencent à éclater, ça commence à pourrir, et donc on coupe. Là, vous avez des médecins du XVIIIe siècle qui vous disent « Oui, l'hiver a été rude, on a coupé quelques orteils. » Mais sans s'émouvoir outre mesure, ce qui, oui, ça fait partie des choses, quoi, tiens. Et donc, plus des notations sur les animaux, hein, les agneaux qui meurent sitôt sortis du ventre de leur mère, les crêtes des coqs qui gèlent, les arbres qui éclatent, il y a toute une perception du bruit qui est très intéressante aussi. Les oliviers qui gèlent dans le midi, etc., etc. Pour vous donner une idée de l'impact de l'hiver, je vais vous lire un témoignage qui est aux Archives nationales. En fait, il y a deux liasses sur les effets de l'hiver 1784. C'est le premier hiver pour lequel on a eu une distribution par le roi de secours à cause de l'hiver et surtout des inondations que la fonte des neiges a provoquées. Donc, on a une enquête administrative où le contrôleur général écrit au réseau des intendants, subdélégués, etc. Et Parmi les réponses, on a celle-ci d'un intendant qui raconte ce qui s'est passé dans le Perche. Alors, je ne sais plus qui travaille sur le Perche, à Beaumont, près de Nogent-le-Rotrou. Et voici ce qu'il nous dit sur l'hiver 1784. Vous allez voir qu'en fait, ça résume à peu près la situation. On est dans un petit village. La neige s'y est accumulée au point que les rues des différents bourgs qui la composent ont été couvertes au-dessus des portes des maisons. Il a fallu faire des communications, pour ainsi dire, souterraines. Et comme il était impossible d'approcher des villages pour apporter des denrées aux habitants et que les moulins ne tournaient plus, on a consommé toutes les vaches. On a été réduit à faire sécher du blé au four et à le broyer sous des pierres, donc manuellement. Tous les pauvres ont brûlé leurs meubles et jusqu'à leurs lits pour se chauffer. Plusieurs ont péri. On a trouvé entre autres dans un chemin creux une femme qui s'était hasardée pour venir demander du secours, morte, tenant dans ses bras un de ses enfants et un autre par la main, tous deux morts comme leur mère. Alors quand on lit ça, on peut dire oui, au XVIIIe siècle, c'est la fin du XVIIIe siècle, larmoyant, on a la larme très facile. Hein. Regardez les tableaux de Greuze. En fait, ce type de témoignage, on l'a sur 3 siècles. Alors on aura le moulin, on n'aura pas forcément la mère morte de froid, mais mis bout à bout, tout ça forme un ensemble absolument cohérent. Et donc, on se rend compte que ces grands hivers sont des révélateurs. Ces grands hivers, en fait, agissent, au sens photographique du terme, comme des révélateurs, c'est-à-dire qu'ils mettent en lumière un certain nombre de choses. Que mettent-ils en lumière? Ils mettent en lumière, en particulier, l'extrême vulnérabilité des sociétés anciennes face au froid. C'est-à-dire que le froid impacte, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et sans commune mesure, les sociétés anciennes, perturbe les communications, l'approvisionnement des villes. Je ne parlerai pas des villes, mais le flottage du bois s'arrête. Le ravitaillement des villes est interrompu. Et ces témoignages nous permettent aussi de comprendre l'impact qu'a pu avoir l'hiver et surtout l'impossibilité qu'on a à l'époque de s'en défendre efficacement. En fait, quand on est attentif à la question, on se rend compte que l'impact de l'hiver ne se limite pas aux grands hivers. Quand on essaye de corréler les témoignages que l'on recueille, les petites bribes d'informations, avec une sorte d'étalonnage des hivers, ce qui a été fait par les météorologues, on se rend compte que un hiver qui tue, un hiver dans lequel il gèle à l'intérieur de la maison, un hiver dans lequel on va trouver des gens morts de froid, c'est pas forcément un hiver très rigoureux. Il faut pas des moins 25 pour trouver des gens morts de froid. Il suffit qu'il y ait quelques jours de gel et on peut avoir ce type d'effet. Il faut aussi contextualiser les témoignages parce que la rivière de l'époque, c'est pas la rivière d'aujourd'hui. Les rivières de l'époque ne sont pas canalisées, entretenues. Enfin, le régime hydrographique a été bouleversé. Le vin de cette époque n'est pas le vin d'aujourd'hui. En termes alcooliques, il titre beaucoup moins. Donc, il faut pas moins 25 pour qu'un tonneau éclate. Hein, dès qu'il fait moins 5, moins 6, un vin faiblement alcoolisé va avoir tendance à geler. Et donc, plutôt que de lire ces témoignages comme une témoignage du petit âge glaciaire, ça aussi, ça c'était un peu la mode. Le même hiver aujourd'hui provoquerait pas les mêmes effets. C'est pas une question climatique, là, c'est une question sociale. C'est bien sûr que les hivers de l'époque moderne sont plus rudes qu'aujourd'hui. Mais si on avait des hivers de cette catégorie aujourd'hui, la société ne serait pas impactée de la même manière. Donc, il faut aller vers non pas la réalité du climat, mais la façon dont l'homme se protège, ou plutôt ne se protège pas du froid. Et donc, s'intéresser aux difficultés que pose la lutte contre le froid à l'époque, difficultés qui sont énormes pour plusieurs raisons. Je vais résumer à très grands traits ce que j'ai essayé de montrer plus en détail. Tout d'abord, mes difficultés de la lutte contre les froids qui est due à un moyen de chauffage qui n'en est pas un, qui est la cheminée. La cheminée, c'est très décoratif. Très joli, ça fait des flammes, ça éclaire l'intérieur, ça sert surtout à préparer des repas, mais est-ce que la cheminée est un instrument de chauffage? Moi j'avoue que je n'en suis pas persuadé. Quand vous lisez les témoignages anciens, vous vous rendez compte qu'en fait, en termes de performance, c'est absolument nul. D'ailleurs les gens qui aujourd'hui ont des cheminées ont mis un insert. Qu'est-ce que c'est qu'un insert? C'est un poêle qui ne s'assume pas. Vous avez les avantages du poêle, c'est-à-dire une diffusion de la chaleur qui est optimale, avec une vitre pour quand même voir la flamme, mais c'est pas une vraie cheminée. La cheminée traditionnelle, c'est quoi? C'est un conduit maçonné qui est fait pour évacuer la fumée d'un feu qui a pas beaucoup évolué depuis l'homme des cavernes, qui est du bois qu'on enflamme dans un coin de la maison, alors qu'à l'origine il est au centre et qu'on va mettre contre le mur. Autrement dit, la cheminée, elle est principalement conçue pour évacuer la fumée. Elle n'est pas conçue pour rayonner la chaleur. Alors, bien sûr, on peut mettre une plaque en fonte derrière pour améliorer un petit peu la diffusion de la chaleur, mais cette cheminée, elle a plusieurs inconvénients, pardon. On s'y brûle la face, on s'y gèle le dos. Ça revient, mais partout. Et en plus, elle fume. Pourquoi elle fume ? Parce que, bien sûr, on ne va pas s'amuser à cuber le tirage, le volume d'air de la pièce, etc. Donc, comme la cheminée fume et que le tirage est insuffisant, le meilleur moyen de faire en sorte que de ne pas se transformer en renard fumé dans sa tanière, c'est d'ouvrir la porte pour provoquer un courant d'air entre la porte et la cheminée. Et donc, tout le monde fait ça. Vous avez des dizaines de témoignages. On ouvre la porte, courant d'air ascendant, la fumée monte dans la cheminée. C'est très bien, vous n'êtes plus en fumée, mais je ne suis pas persuadé que vous y gagnez beaucoup en termes de performance calorifique. Donc, la cheminée est assez mauvaise. Ou alors, pour qu'elle chauffe, il faut mettre des quantités astronomiques de bois. Et ça, c'est au-dessus de la portée du plus grand nombre. Regardez, chose simple, quand vous visitez un château, vous mettez des cheminées avec des bûches, vous voyez le volume des pièces. Clairement, la cheminée ne chauffe pas. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que la langue ancienne ne dit pas que la cheminée chauffe, on dit qu'on se chauffe. C'est-à-dire qu'en fait, on approche son corps du feu. La cheminée n'est pas là pour chauffer un volume, un espace, pour chauffer l'air ambiant. Deuxième problème, la perméabilité de l'habitation aux infiltrations de l'air extérieur. C'est valable dans l'habitation des villes, mais surtout dans l'habitation des campagnes. Et là, les médecins de la fin du XVIIIe siècle sont absolument imparables. La notion d'isolation thermique est complètement anachronique. Le premier à y réfléchir un tout petit peu, c'est un architecte rural qui s'appelle Cointreau, qui fait des tests d'infiltrométrie. C'est-à-dire qu'il fait un petit schéma très intéressant où il remarque où l'air froid rentre dans la maison. On est en 1792, je crois. Avant ça, aucune réflexion. Quand on construit, un architecte ne s'intéresse pas du tout à la façon dont l'objet qu'il va construire va être chauffé. Donc, pas d'isolation. Ou alors une connaissance empirique traditionnelle, on fait des murs épais, on utilise le torchis, le chaume, etc. Mais on n'est pas dans les normes techniques actuelles, c'est évident. Comment fait-on pour lutter contre le froid ? Déjà, on limite les ouvertures. Petites ouvertures, systématiquement bouchées. Les médecins, bien sûr, c'est les idées aériennes, pestent en permanence. Ah, ces paysans, ils passent leur temps à boucher leurs fenêtres, l'air ne se renouvelle pas, etc. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la logique. Pourquoi est-ce qu'on bouche les fenêtres avec de vieilles hardes ? Parce qu'on n'a pas envie que le froid rentre. D'où quelque chose qui est fondamental, c'est la fréquence du gel à l'intérieur des habitations. Ça revient dans tous les témoignages. Dès qu'il fait froid dehors, il gèle dans la maison. Et il gèle parfois près du feu. C'est quelque chose qui revient comme une antienne pendant 3 siècles, et même plus, et qui n'a pas disparu. Mon père se souvient, dans les années 50, d'avoir vu la vitre de sa chambre avec des fractales de givre à l'intérieur. C'était dans la Bourgogne profonde, pas loin de Saint-Christophe-en-Brionnais. Pour avoir une idée de la perméabilité de l'habitat ancien, on a quelques témoignages, j'en retiendrai deux qui sont assez suggestifs. Dans un mémoire sur la Sologne, l'abbé Tessier écrit que dans les chaumières solognottes, le brouillard pénètre dans les chaumières l'hiver. Vous imaginez, s'il y a du brouillard à l'intérieur, la maison est une passoire thermique. Et deuxième chose, un autre médecin écrit, là on est près d'Orange, à Codolé, sur la rive droite du Rhône, que dans le village, les gelées blanches pénètrent, j'ouvre les guillemets, même dans les armoires les mieux fermées. Donc là, on n'est même pas dans la chambre, on est dans l'armoire la mieux fermée, et quand vous l'ouvrez, il y a une gelée blanche, donc humidité plus froid, et donc la maison protège mal. Donc, des maisons inchauffables, avec un moyen technique inadapté, et se pose aussi la question du combustible. Pour chauffer, c'est tout simple, pour que la cheminée chauffe, il faut l'alimenter. Et là, on est sur une autre question qui est une question à la fois juridique, qui est la question de l'accès au bois, et économique. Comment fait-on pour mettre du bois dans la cheminée ? C'est une question très complexe parce que il y a dans le monde rural des situations très différentes. On peut acheter du bois. Bien souvent, on en obtient dans le cadre de l'affouage, c'est-à-dire qu'on a une part de bois, un stock, qui est le même tous les ans, qu'il faut faire durer toute l'année, en sachant qu'il va falloir faire cuire la soupe au mois de juin. Donc on va peut-être éviter de trop consommer du bois lors des pics d'hiver. On est toujours très réticent à utiliser son stock de bois. Et puis on utilise aussi, plus tôt que la bûche, parce que là aussi l'image des très riches d'or du duc de Berry avec ce feu qui pétille, elle est complètement fausse. Quand on regarde dans les sources, le feu pétille pas, on a un maigre feu, et c'est pas de la bûche qu'on a dans l'âtre, c'est plutôt du bois mort et du morbois. Le bois mort, pourquoi ? Parce que en fonction du droit forestier de l'époque, on a le droit d'aller dans les forêts privées pour prendre le bois mort étant tombé à terre et réellement mort. Après, on peut toujours se débrouiller pour le faire mourir, et tout un tas de techniques qui sont dans les traités forestiers, ou donner des petits coups de serpe à la base des branches pour faire en sorte qu'elles vont se dessécher. Ou alors vous prenez du bois vert, mais si le garde forestier vous prend, vous passez ensuite au tribunal, devant un tribunal. André Corvol l'a bien montré, la petite délinquance forestière montre justement ça, qu'on est constamment à la recherche de bois. Et d'ailleurs, l'image que l'on a de la paysanne qui ramasse du bois, c'est qu'elle va le ramasser au jour le jour et elle revient avec son fagot sur le dos. Donc on n'est pas sur des bûches, on est sur des branches de petit diamètre et dans une sorte de quête constante où on va chercher des branches pour faire bouillir la marmite. Et puis le morbois. Alors le morbois, les traités d'agronomie l'expliquent, ce sont des bois de petite essence, vert en étang, j'adore la langue de l'époque, c'est-à-dire le saule, le marceau, l'épine, le puine, le sureau, le genêt, l'aune, le genévrier et la ronce, en fait 9 espèces, qui sont des bois qui n'ont aucune valeur marchande. On ne peut pas en faire des meubles, on ne peut pas en faire des manches d'outils, on ne peut pas en faire des roues de charrette. Donc, ils sont laissés à la population rurale qui se chauffe essentiellement avec ce qu'on appellerait aujourd'hui des espèces arbustives qui ont un faible pouvoir calorifique. Et donc, on a dans l'âtre, plutôt que du bois ou même des branches, de la bruyère séchée, du genêt, des ronces, et tout un tas de choses qui, vous le doutez, ne dégagent pas une énorme chaleur. On trouve de tout dans l'âtre des campagnes. De la paille, selon les régions, des tiges de fèves séchées, des sarments, si on est dans une région viticole, des feuilles mortes, de la tourbe, là où il y en a, et puis des bouses de vache séchées, c'est dur à dire. Les bouses de vache sont un combustible traditionnel des régions qui sont dépourvues de bois ou dans lesquelles le bois est rare. On les trouve, alors aujourd'hui, si vous allez à la Grave, au pied de la Meije, au pied du col du Lautaret, sur la route qui va de Grenoble à Briançon, vous trouvez, c'est un peu pour les touristes, sur le balcon des fermes, à l'extérieur, ce qu'on appelle des blettes, c'est-à-dire des carrés de fumier qui sont débités, en gros, pendant l'hiver, on ne vide pas le fumier, on fait des briquettes au printemps, on les fait sécher sur le balcon et on les utilise comme combustible. On utilise dans le Sahara des crottes de chameaux pour faire bouillir le thé. Donc, bouse séchée, on trouve ça dans les littoraux en Picardie, en Flandre, en Vendée, dans le Marais Poitevin et dans tout un tas d'autres endroits, avec parfois un petit peu d'artisanat. On mélange de la bouse et de la paille, on mélange des écorces séchées avec de la bouse, etc. Il y a toute une sorte de fabrication de combustible artisanal qui a toujours un point commun, c'est qu'il ne coûte pas cher et qu'il évite de dépenser son argent pour acheter du bois ou quelque chose qui chaufferait mieux. Et donc, comme le bois est cher et qu'on est toujours dans une logique d'économie du combustible, pour se chauffer, c'est évident, même pour la cuisine. On a des témoignages de médecins qui racontent que voilà, la soupe du matin, on prend la marmite, on la met dans le lit pour la retrouver chaude quand on rentre le soir pour éviter d'avoir à rallumer la cheminée. Si on en est là pour faire la cuisine, vous imaginez que le chauffage n'est pas non plus la première priorité. Et on est donc dans une société dans laquelle la recherche de la chaleur est un souci permanent et surtout la recherche d'une chaleur à moindre frais. Alors comment arrive-t-on à se préserver, se prémunir du froid à moindre frais? Tout d'abord avec le rôle fondamental du lit. Le lit clos, plus ou moins clos, avec des portes en Bretagne ou en Auvergne, qui est une caisse en fait, ou clos par des rideaux. Alors le rideau souvent est interprété comme une volonté d'intimité. Oui, mais pas seulement. le rideau est un moyen de créer une sorte de microclimat, hein, ce que j'appelle moi un espace gigogne, comme des boîtes qui s'empilent. Hein. Il y a un espace clos dans la maison qui est le lit. Et si le lit clos a eu pendant très longtemps un tel succès, c'est en partie parce que les chambres n'étaient pas chauffées et que même quand il était dans la pièce, dans un coin de la pièce à vivre, la pièce à vivre n'était pas mieux chauffée que la chambre. Importance du lit clos, dans lequel on dort à plusieurs. J'ai lu qu'en extrait récemment les confessions de Rousseau. Le jeune Rousseau, dont l'éveil à la sexualité a fait couler beaucoup d'encre, explique qu'après la fameuse fessée, qui quelque chose de fondamental pour lui dans son éveil à la sexualité, explique qu'en gros, on lui a interdit de dormir avec sa préceptrice. C'est-à-dire que l'hiver, il dormait avec sa préceptrice, parce qu'en gros, à deux dans un lit, on a moins froid que si on est seul. Et puis, selon les régions, on dort à 3, à 4, à 5, parfois dans un lit. Et on trouve même parfois des témoignages de gens comme ça qui sont entassés à plusieurs. Hein, chaleur des corps. Les médecins détestent ça. Vous imaginez les épidémies, les miasmes, etc. Mais en tout cas, la réalité est là. D'ailleurs, les médecins la condamnent, mais ils n'en comprennent pas la logique. Ils ne vous disent pas, là, il faut interroger les sources, ils ne vous disent pas pourquoi on dort à plusieurs. Hein, quand la famille entière dort, c'est pas... forcément parce qu'il n'y a qu'un seul lit. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, chose intéressante, lors des grands hivers, vous avez des témoignages de médecins, ou par exemple là pour les subdélégués, qui disent « Oui, les paysans ont passé la période de froid, la vague de froid pendant 20 jours. Ils sont restés au lit parce que c'était le seul endroit de la maison dans lequel ils avaient chaud. » Rôle du lit. Rôle des bêtes. Cohabitation de l'homme et de l'animal. La cohabitation de l'homme et de l'animal est recherchée parce qu'une bête, ça dégage de la chaleur. Si vous êtes déjà allé dans une étable ou une écurie, je ne sais pas si vous avez des travaux pratiques au pôle rural, vous verrez qu'on n'y a pas froid l'hiver et que les garçons d'écurie et les valets de ferme, quand dans les années 20, je crois, on les a fait sortir de l'écurie parce qu'une norme sanitaire était sortie, pour certains, ont voulu y retourner en disant « Il y a hors de question que je dorme dans une chambre, je veux continuer à dormir à l'écurie ». Peut-être que ça sent un petit peu fort, mais là aussi, CF Corbin, on s'habitue à tout. Mais au moins, on n'a pas froid l'hiver. Rôle des bêtes, avec la cohabitation, avec les animaux. Ça, c'est un tableau qui est au musée de Picardie à Amiens. Les paysans qui mangent, qui cuisinent. La vache, ce que j'aime beaucoup dans ce tableau, c'est que vous avez deux choses. Vous avez la chaleur cuisine, mais la chaleur chauffage, c'est pas là. Le feu que vous avez ici, il sert à préparer le repas, il sert pas à se chauffer. Ce qui tempère la pièce, c'est la vache. Et ça, on le voit très bien, par exemple, en Auvergne, quand Le Grand Dossi décrit les mœurs des paysans auvergnats, il raconte que dans les grosses fermes auvergnates, j'étais enfant, mes parents, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais on allait en vacances en Auvergne, on allait acheter le Saint-Nectaire dans une ferme qui devait dater du XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait cette énorme étable avec les vaches. Quand je lis Le Grand Dossi, je revois cette ferme-là, à Besse-Saint-Anastèse. Une énorme étable avec les vaches, et une habitation qui communique avec l'étable par une porte. L'été, on vit dans l'habitation. Il y a des chambres à l'étage, il y a une cheminée. L'hiver, on déménage, tout le monde va à l'étable. C'est-à-dire qu'on prend les lits, qui sont des caisses, on les met dans l'étable et on passe l'hiver avec les vaches. On va y dormir, on va y passer la veillée, on va y passer ses journées. On reviendra dans la cuisine pour préparer le repas, parce que c'est là qu'est la cheminée. Mais attention, on prépare le repas. Donc on chauffe. Dès quand le repas est prêt, on va s'asseoir dans la cuisine, on mange son repas, mais sitôt le repas fini, hop, on retourne dans l'étable. Donc clairement, ce qui produit la chaleur, c'est l'animal, c'est pas la cheminée. La cheminée est là pour préparer le repas, pas pour tempérer la pièce. Et on a une description très précise chez Le Grand Dossi de ce va-et-vient entre l'étable et la cuisine. On trouve ça, bien sûr, c'est connu dans les Alpes. On trouve ça en Bretagne, une région pauvre en bois, dans laquelle on brûle, par exemple, du genêt. C'est une photographie, vous l'aurez remarqué. Donc, on est au début du XXe siècle. Et la cohabitation avec les bêtes est là. Vous remarquerez, au fond, une cheminée. Hein, donc, là aussi, la cheminée avec la crémaillère et la marmite sert à préparer les repas. Lit clos aussi, en Bretagne, hein, avec des portes en bois. On trouve ça dans les Alpes, bien sûr. Si vous êtes allé à Saint-Véran, il y a une maison témoin qu'on visite. J'ai trouvé une superbe description du village de Besse-en-Oisans, là aussi près de la Mège, où, en 1808, je crois, on décrit très précisément l'organisation de la pièce, la façon dont on passe l'hiver enfermé avec les bêtes. Et quand vous allez dans des villages de la haute vallée de la Romanche ou de la vallée de Névache, vous avez tout à fait ça. Ça se voit encore. Vous avez des restaurants qui sont de superbes étables voûtées avec des voûtes en pierre où, en gros, on a les appartements d'hiver et les appartements d'été. C'est plutôt le contraire, appartements d'été, appartements d'hiver. Ça a été étudié par les ethnologues en particulier, avec parfois des choses assez intéressantes. À Val d'Isère, par exemple, un paysan qui se chauffait avec ses moutons. En fait, il avait une caisse dans laquelle il faisait rentrer ses moutons et le lit était sur la caisse. Donc, en fait, il avait un chauffage par en dessous avec la chaleur métabolique des moutons. Donc, on recherche la proximité de l'animal. On va, chose très belle, une paysanne qui a froid aux mains, son réflexe est d'aller mettre ses mains entre les cuisses d'une vache. Elle en contractera une maladie. Heureusement, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a le trait de, qu'on a la mention de ce geste, hein, qui ne laisse pas de traces normalement dans les archives de la Société Royale de Médecine. Mais voilà, le réconfort de l'animal. Chaleur du fumier aussi. Quand on trouve quelqu'un mort de froid, on l'enterre dans le fumier. C'est un grand classique. Ambroise Paré le fait et plein de gens le font. C'est comme ça aussi qu'on réanime les noyés pour les réchauffer. Et aussi en leur insufflant du tabac dans l'anus. Je viens de lire ça dans un ouvrage qui vient de sortir chez Champvallon, qui s'appelle « Du tabac pour les morts ». Je suis impatient d'en savoir plus sur cette pratique assez étonnante. Rôle aussi des pratiques de sociabilité. Dans un monde de la chaleur rare, où cela coûte cher de se chauffer, bien forcément on se réunit, on partage la chaleur. Il y a toute une sociabilité autour de la chaleur. Il y a un très bel article de Lucien Febvre sur la forge de village qui dit que la forge est le parlement du village. En gros, on s'assemble autour du forgeron pour discuter. Peut-être parce que il y a une fascination pour le travail du fer, etc., qui rougeoie, mais aussi parce que, bah, tout simplement, il fait chaud. Regardez une gare SNCF. C'est un peu passé de mode, mais pendant un moment, la SNCF avait mis des plots chauffants. Ça polarise l'espace. D'ailleurs, tous les gens qui vont se coller autour. Donc, dès que vous avez une source de chaleur, vous voyez des gens qui se collent autour. Regardez bien ce tableau que vous connaissez tous. Dénombrement de Bethléem, de Bruegel, regardez au fond, hop, qu'est-ce qu'on voit ? Un feu. Et dès que vous voyez un feu, paf, comme les mouches autour d'un pot de miel, vous voyez, les gens qui travaillent sur l'apiculture, vous voyez les gens qui se regroupent autour de la chaleur. Feu public, veillez dans les étables, je pense aux dentelières. J'ai trouvé plein de dentelières qui se réunissent dans les étables pour faire de la dentelle, pour avoir les doigts agiles. rôle de la taverne. La règle veut que quand on est dans une taverne, eh bien, on amène sa bûche à tour de rôle. Et quand on ne l'amène pas, ça donne lieu à des bagarres, parce qu'il y a des mauvais payeurs, et ça, Robert Muchimblet l'a montré, en fait, on se tape dessus dans les tavernes de l'Artois, parce que il y en a un qui a refusé d'amener sa bûche. Donc, chaleur partagée aussi à la veillée, où on se regroupe autour d'un feu commun avec les voisins, et où là aussi il y a une volonté de, voilà, de faire en sorte que la chaleur qui se dégage ne profite pas à une famille, mais à deux, à trois ou à quatre. On sait l'importance de la veillée dans les sociétés traditionnelles, un lieu de socialisation, c'est là que les couples se forment, c'est là que se transmettent les histoires, toute une culture, etc., des traditions. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Et l'exemple paroxystique étant ce qu'on appelle les écraignes, en Bourgogne, c'est-à-dire des veillées qui sont qui ont lieu dans des lieux spécifiques. On connaît ça grâce à Taboureau et puis à d'autres auteurs. Taboureau, c'est un auteur de contes du XVIe siècle qui a écrit un recueil sur les écraignes dijonnaises, qui peut être un recueil de contes scatologiques, c'était très à la mode. On est en plein à l'époque rabelaisienne. Et il raconte, et c'est attesté par d'autres sources, qu'au XVIe siècle, les vignerons, qui n'ont pas beaucoup de moyens pour se chauffer, lors des longues soirées d'hiver, se regroupent et construisent des huttes de forme conique, avec des branches, un peu comme un tipi d'Indien, qu'ils recouvrent de mottes de terre, et ils vont, dans cette petite hutte, s'asseoir en rond autour d'un petit pot dans lequel on met des braises ou du charbon de bois pour se chauffer. Et donc, on arrive à passer la veillée au chaud, parce qu'on a cette petite chaleur partagée, surtout cette atmosphère confinée dans laquelle la chaleur dégagée par les corps va permettre d'obtenir une température relativement agréable. Et on peut relire plein de choses comme ça au travers du prisme de cette sociabilité, du lien entre sociabilité et chaleur, fréquentation des cafés dans les villes, c'est Louis-Sébastien Mercier qui le dit par exemple, fréquentation des cabinets de lecture, etc., etc. On est donc dans une société qui est une société affamée de chaleur, dans ce que j'ai appelé un monde de l'économie permanente et de la chaleur rare. J'ai dressé ici un tableau très fixiste, hein, en dégageant des structures du monde rural. Je voudrais, pour conclure, m'interroger sur les spécificités du monde rural et voir si finalement le monde rural n'est pas un conservatoire d'une autre sensibilité au froid et à la chaleur. Pourquoi ? Parce que au XVIIIe siècle, on a l'apparition timide, très progressive du confort thermique, une réflexion sur les moyens de chauffage, mais ces cheminées perfectionnées sont le fait de quelques-uns, dans les villes principalement, ce qui ne veut pas dire que dans les campagnes, on n'ait pas des progrès. Le progrès, c'est l'apparition du poêle, chez les grands fermiers en particulier, chez les coqs de village, chez les curés éventuellement, chez les notaires, on va dire chez les élites rurales. Cette apparition timide du confort thermique provoque une évolution des seuils de tolérance. Pour faire simple, jusqu'au XVIIIe siècle, quand il fait 12 à 15 degrés dans une pièce, on s'estime très correctement chauffé. C'est une sorte de maxima. Et puis on va arriver progressivement à la norme du 20 degrés. Et encore, quand je dis 20, je suis sûr que chez certains, il fait 22 ou 23. Donc on va avoir une accoutumance au corps à la chaleur. Et cette évolution, elle est marquée au XVIIIe siècle, elle est attestée, elle est dénoncée d'ailleurs par les moralistes qui condamnent le luxe, la volupté, la mollesse, etc. Quelle est la part du monde rural dans cette évolution, dans cette apparition progressive du confort domestique ? C'est une vraie question qui mériterait d'être creusée, et là je voudrais lancer quelques pistes. Si on regarde le monde rural, en fait, c'est un étonnant conservatoire de cet ancien régime thermique. La cheminée est restée dominante pendant très longtemps. Le lit clos est resté dominant pendant très longtemps. On a, finalement, à partir de la fin du 19e, début 20e siècle, ça a été étudié par des ethnologues, en particulier Michel Rothenberg dans les Monts du Lyonnais ou Arlette Schweitz en Touraine, on a l'apparition du gros fourneau, hein, qui fait à la fois l'eau chaude, le four, etc., à charbon souvent. Mais ce fourneau, on va le mettre sous la cheminée. Hein. On l'installe sous la cheminée à la place, avec le tuyau qui passe, qui décore la pièce, on verra une photo après. Mais finalement, est-ce que ça change vraiment grand-chose ? On est quand même dans des maisons dans lesquelles il n'y a pas d'isolation thermique, des maisons dans lesquelles il y a une seule pièce qui est chauffée, les chambres ne sont pas chauffées, dans lesquelles finalement on continue à souffrir du froid, à souffrir, je ne sais pas, en tout cas à s'en accommoder. Dans le livre de Michel Perrault sur Georges Sand à Nohant, on voit toute la difficulté qu'il y a à chauffer une maison ancienne. Georges Sand bataille avec son calorifère pour essayer d'avoir plus de 12 degrés dans la pièce où elle écrit, parce qu'elle n'arrive plus à écrire, parce qu'elle a les doigts complètement gelés. On se rend compte aussi, quand on enquête, quand on utilise l'enquête d'architecture rurale du musée de Feu, le musée national des arts et traditions populaires, qui a donné lieu au corpus de l'architecture rurale, que les maisons du milieu du XXe siècle ne sont pas différentes de celles des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Quand on fouille dans les souvenirs d'historiens et qu'ils vous racontent que, surtout dans les essais d'égo-histoire, que du temps de leur jeunesse, il y avait une automobile dans le village et une seule maison qui avait le chauffage central, on n'est pas très loin de ce monde-là. Fouillez un petit peu les mémoires familiales, interrogez les anciens, ils vous diront que ce que je vous ai raconté là ne les surprendra pas outre mesure. Ça nous surprend nous qui sommes majoritairement des urbains, mais c'est resté quand même... En gros, la bascule dans le monde rural s'est faite pendant les Trente Glorieuses, un concept qui mériterait d'être là aussi discuté. En fait... Et je conclurai là-dessus. Le monde rural, et ça me fait plaisir de conclure avec Raymond Depardon, qui est un pays, comme on dit, quand on est issu du monde rural. Il est originaire de Villefranche-sur-Saône, c'est à 40 km de l'endroit où je suis né. Quand vous regardez Profil paysan de Depardon, cette superbe trilogie, vous verrez que ces vieux paysans filmés dans leurs fermes sans confort sont pas très loin des gens dont je viens de parler. On a ici tout, regardez les murs, humides, le poêle. Alors ici, on a quand même un système qui distribue, on a dû aménager un peu de chauffage dans la chambre à partir de l'eau chaude qui part du poêle, mais on n'est pas très très loin de ça. Quand je parle de mon sujet, quelqu'un qui habite dans la région, il me dit « Ah mais oui, moi quand j'étais enfant dans la Manche, il y avait une vieille, elle avait toujours sa porte ouverte, sinon la cheminée, elle fumait. » On est dans quelque chose qui finalement n'a pas disparu depuis si longtemps que ça, et ce qui veut dire que ces derniers paysans, à l'ancienne, qui ne sont pas des agriculteurs, mais des paysans encore, avaient une constitution physique, un rapport à l'inconfort, à la douleur, à la gêne, qui n'était pas le nôtre, et donc apparaissent bien plus résistants que nous au froid. Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer la guerre de 14. Si la guerre de 14 avait lieu aujourd'hui, avec les corps des gens d'aujourd'hui, on ne tiendrait pas trois jours dans une tranchée. Qu'est-ce qui fait que les poilus ont tenu dans le froid et dans la boue? C'est parce qu'en gros, ils étaient durs au mal, ils étaient habitués à ce genre de conditions, qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui. Et quand on va, et je conclurai là-dessus, sonder un petit peu les sources de la fin du XIXe siècle. Je pense en particulier à un bel article de Jacques Léonard sur le journal de Jules Renard. Jules Renard raconte que Jules Renard est écrivain, urbain, etc., que les paysans, pour lui, sont d'une autre substance que lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, mais c'est pas possible. Ils sortent pas vêtus, ils sont jamais malades, ils résistent à tout, ils ferment jamais leurs portes. Et son frère, qui est à Paris dans un bureau bien chauffé, dit, ils me feront crever avec leur chauffage central. Je n'ai pas retrouvé la citation, mais je crois que le terme, c'est crever. Ils me feront crever avec leur chauffage central. Pensez, ma pauvre dame, il fait jusqu'à des 20 degrés. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, eh bien, si vous vous intéressez à l'histoire du froid et à la chaleur, interrogez quelques vieux paysans parce que vous verrez qu'ils sont les lointains descendants des gens dont j'ai essayé de vous parler ici. Qu'en gros, l'apparition du confort dans les villes commence très progressivement au XIXe siècle, mais que le monde rural est resté un étonnant conservatoire de cette sensibilité qui aujourd'hui, et on ne s'en plaindra pas, est une sensibilité disparue. Merci de votre attention.